RCF, il est 19h. RCF, près de chez vous, Fabrice Gironnet.
Et après le 18-19, la musique sur RCF Reims-Ardennes avec la playlist musicale et Top Music qui nous accompagne dans la réalisation de cette playlist. Je vous signale qu'à 19h20, nous retrouverons le Jardin d'Hubert, les bons conseils d'Hubert Fontaine, toutes les semaines sur RCF Reims-Ardennes.
RCF, la playlist chrétienne par Top Music, l'application incontournable pour découvrir et soutenir les artistes chrétiens.
Quand je regarde le ciel, jusqu'où c'est dans ce monde, la question que je me pose, jusqu'où c'est dans ce monde, toi dans le ciel, tu détiens des réponses.
Organisée comme une symphonie. Malgré tout, je me convainc qu'elle est belle. La vie a des angles précis, elle est si folle. La vue, je suis pessimiste de nature, mais j'apprends. J'avoue, je m'interroge sur la vie, moi j'y vois tant de limites. Pourtant, tout semble infini. Pourtant, tout semble infini. Parfois, l'impression tout est défini. J'étais au fond du trou, au fond des abysses. Je suis comme une anomalie dans la matrice. Toujours au fourneau, je travaille comme 10. Tu crées les occasions, joue comme 10. Le monde est trop vaste, j'ai capté que je peux pas le changer. C'est pas sur tous les problèmes que je dois me pencher. J'essaie d'être meilleur, un pas après l'autre chaque jour. Ta parole m'aide, je regarde le ciel et je t'avoue. Je médite,
quand je regarde le ciel,
je médite.
RCF, la playlist.
Ciel, éternel, ce joie. La playlist chrétienne, RCF.
À chaque fois la nuit tombée, je rêve d'un monde où l'amour n'a plus d'enclos. Je m'enfuis dans mes pensées, je rêve
que nous vivions tous libres.
N'ayons pas peur de nos différences, ce sont elles qui nous subliment. Que nos couleurs sont une richesse, non pas ce qui nous définit.
Dont j'avais besoin, planté dans ces gens qui me ressemblent. Et pourtant si différent de moi, mais avec un regard profond. Je vois plus leur couleur, plus du tout des cars sociaux. L'anxiété me tourne autour et passe du tout au tout. Ma conscience, à cet amour j'ai choisi de faire confiance. Et cette voix qui veut mon mal, cette fois je laisse pas passer. J'étais trop resté dans le silence. Qui t'a dit que je suis pas fait pour ça, pas fait pour être moi, garde tes vieilles confidences. Qui t'a dit que c'était pas assez à cause de mon passé, à toi l'amour parle, chut, silence.
Tu as de la valeur, tu es à l'image de Dieu, il te voulait tel que tu es, oui, tu as de la valeur, ne laisse plus jamais personne t'en dissuader. Tu nous as donné de plus grand pouvoir.
Laisse pas la froideur de ce monde à foire, yeah. Tu tu as de la valeur. Laisse parler la chaleur que ton cœur a en lui.
Ah, yeah. RCF, le meilleur de la musique chrétienne.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira.
Chaque nouveau matin, ces nouvelles bontés. À chaque nouveau défi, ces nouvelles grâces. Tu n'es pas du genre à laisser tomber. Et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas.
Bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité.
Vous écoutez RCF à Rouen sur le 88.3 et où vous le souhaitez sur rcf.fr.
Que tu m'aimes.
La playlist chrétienne d'RCF Reims-Ardennes avec Top Musique. 19h21, on parle jardinage.
Bonjour à tous, et bien voilà, c'est la grande période du ramassage des feuilles. Bon, ça, on aurait pu déjà commencer un petit peu plus tôt, disons on va poursuivre le ramassage. Alors ces feuilles, elles sont très utiles pour le jardin, il ne faut surtout pas les emmener à la déchetterie. Utile parce qu'on peut en faire un excellent terreau de feuilles, on peut aussi bien les utiliser aussi comme paillis dans le potager, on peut les mettre entre les légumes. S'il n'y a pas de légumes, on peut tout simplement les disposer sur le sol en les tassant un tout petit peu. On peut les mettre dans les massifs, on peut s'en servir comme protection. Alors l'avantage du terreau de feuilles, lorsqu'on l'a composté, sachez qu'il faut compter une dizaine de mois pour réussir son compost jusqu'à 2 ans, c'est un excellent compost ou terreau pour les plantes acidophiles. J'entends par là les plantes dites de terre de bruyère, les rhododendrons, les azalées, les camélias, les érables, enfin les érables du Japon. Enfin, toutes ces plantes qui n'aiment pas le calcaire. Et dans la région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calcaire. Donc, on conserve surtout ces feuilles. Alors, surtout, n'allez pas prélever des feuilles dans les bois, puisque vous allez déshabiller Paul pour habiller Jacques, hein, puisqu'elles sont utiles aussi pour les arbres. Alors, il y a une petite polémique. Doit-on ramasser les feuilles sur la pelouse quand on a un arbre au milieu? Oui, quand ça gêne un petit peu, sinon on les rassemble au pied des arbres. Car ces feuilles vont les nourrir en humus. Voilà pour les feuilles mortes. Alors actuellement, dans son appartement, on a rallumé le chauffage hein, avec les premières fraîcheurs. Bon, ça va encore à peu près pour cette semaine. Mais le chauffage est quand même allumé. Et on a plutôt un air déshydratant. Vous savez, vous en apercevez le matin ou pendant la nuit, lorsque ça, vous avez une sensation de bouche sèche ou de nez un petit peu desséché, ça vous gratte un petit peu au fond de la gorge, eh bien, c'est un manque d'hygrométrie. Eh bien, il faut savoir que les plantes aussi souffrent du manque d'hygrométrie. Alors, pour augmenter l'hygrométrie, c'est simple, il pleut bergère, on récupère de l'eau de pluie, et on pulvérise le plus souvent possible les feuilles des plantes vertes au-dessus et en dessous. Alors toujours avec une eau douce, une eau qui doit être à la température de la pièce, et vous placez votre bouteille d'eau, si vous en avez plusieurs, toujours dans une pièce noire, dans l'armoire, hein, tout simplement. Toujours, surtout pas à la lumière, car l'eau risque de verdir. Voilà pour les plantes vertes à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? C'est la Sainte-Catherine quand même, hein, c'est la semaine de la Sainte-Catherine. Il faut planter, il faut continuer à planter des arbres et des arbustes. Alors, on préfère actuellement les arbres à racines nues. Alors, vous allez chez les pépiniéristes, vous savez que des arbres à racines nues, c'est des arbres qui n'ont pas été cultivés en pot. Alors, souvent, ils sont plus développés. Je n'ai rien contre la culture en pot ni en conteneur. Mais à cette époque-ci, profitez quand même des racines nues. Alors, vous allez les trouver chez les pépiniéristes. Il y en a peu hein, maintenant dans la région. Il y en a un petit peu dans les Ardennes. Il y en a un peu dans la Marne. Des pros, quoi. Enfin, puis après, il y a des personnes qui revendent aussi des arbres à racines nues. Mais de plus en plus rares, il faut bien le reconnaître. Alors, en ce moment, on plante les arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers. Enfin, je ne vais pas vous les énumérer. N'oubliez pas aussi les petits fruits. Alors, les petits fruits, on les trouve pas toujours en racine nue, sauf, si vous allez chez un pépiniériste, vous pourrez trouver des groseilliers et des cassissiers, mais vraiment, presque en motte. On peut aussi bien les avoir en motte, donc ce sont des plantes déjà bien développées qui vont rapporter, pas l'année prochaine, mais la deuxième année de culture, ce qui est intéressant. Vous savez qu'on est toujours pressé lorsqu'on plante des arbres fruitiers. Alors actuellement aussi, puisqu'on parle de la Sainte-Catherine, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, donc le bois, ben, c'est des boutures, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, c'est des boutures à bois sec qu'on va faire, donc des boutures à bois sec, c'est-à-dire que ce sont des boutures d'arbres ou d'arbustes à feuillage caduc, ceux qui ont perdu leurs feuilles, on va prendre des exemples, hein, les rosiers, l'osier, les arbustes à fleurs, vous les plantez directement en pleine terre, vous les enfoncez, vous faites des boutures de 20 cm, vous les enfoncez sur 10 à 15 cm, vous laissez passer deux yeux, et puis vous aurez directement des plantes là où vous le souhaitez. Mais disons que le plus simple, en principe, ça se fait un petit peu autrement, on fait des bottes, on rassemble une dizaine de boutures qu'on coupe de 20 cm, toujours des boutures saines, hein, des rameaux sains. Vous les liez, vous les étiquetez, bien sûr, vous les enfoncez dans du sable, dans un endroit plutôt au sec, au nord, et puis vous les plantez seulement à partir du mois de mars. On peut aussi bouturer directement dans des pots, et puis les rempoter un petit peu plus tard, et vous les plantez l'année prochaine, au mois de novembre. Voilà, concernant tous les travaux qu'on peut faire actuellement dans son appartement, n'oubliez pas que c'est bientôt la Saint-Nicolas, et que c'est le moment aussi d'acheter des poinsettias, les étoiles de Noël. Alors, surtout que ce sont des plantes qui fleurissent, qui se colorent plutôt naturellement en ce moment. Ça vous donnera de la couleur dans votre appartement. Et puis, si vous en avez une, vous êtes procuré l'an passé une étoile de Noël et puis qui est toujours verte, surtout ne l'exposez pas à la lumière. Ne lui faites pas regarder la télévision tous les soirs. Elle ne se colorera pas. Mettez-la dans une pièce qui est normalement éclairée et qui bénéficie, allez, pas plus de 12 heures de jour par jour, hein, surtout pas les mettre dans le noir, pour qu'elle se colore naturellement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et un très bon week-end.
Hubert Fontaine, le jardin d'Hubert sur RCF Reims-Ardennes. Le temps de l'Avent, Noël et son chemin des crèches. On en parle ce soir dans Écho du Rethelois. C'est une émission qu'anime Maxime Bettemal.
L'Écho du Rethelois vous est présenté par CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans les Échos du Rethelois, votre rendez-vous traditionnel sur RCF Reims-Ardennes. On va au cœur de ceux ou de celles qui font l'actualité, qui créent dans le Rethelois, mais même les Ardennes au sens global cette semaine, puisqu'on va parler du chemin des crèches, édition 2024. Et pour en parler, on accueille Jean-Luc Guillaume avec nous. Bienvenue Jean-Luc Guillaume.
Bonjour.
Historien, entre autres, plein de titres pour parler donc du chemin des crèches, édition 2024. Je disais, le Rethelois et l'Ardennes au sens global, puisqu'il y a bon nombre de territoires qui vont être concernés, et c'est une des particularités cette année, puisqu'il y a plus d'une vingtaine de villages qui seront exposés grâce aux trois communautés de communes cette année, que sont le Pays Rethelois, les Crêtes Ardennaises et l'Argonne également.
Tout à fait, c'est même la grande nouveauté de cette année, c'est le 10e anniversaire du chemin des crèches dans le sud Ardennes, puisque la première année c'était en 2014 dans les Crêtes pré-Ardennaises, et ensuite c'est le Pays Rethelois qui s'est ajouté, et l'Argonne Ardennaise cette année apporte 8 communes, ce qui fait qu'on arrive à un total de 23, 4 dans le Pays Rethelois, 11 dans les Crêtes pré-Ardennaises et les 8 de l'Argonne Ardennaise. C'est la grande nouveauté.
On peut les nommer rapidement, notamment dans le Pays Rethelois, il y a Le Tour dont on parlera beaucoup tout à l'heure, mais également Herpy, l'Arlésienne, Thésy, Novi, Chevrière également, et plein d'autres dont on aura l'occasion d'évoquer. Mais un petit point un petit peu avant sur l'historique, parce que le chemin des crèches, ça parle peut-être à certaines personnes, mais pas à d'autres, c'est possible. On est là aussi pour corriger un petit peu le tout. On l'a dit, ça fait déjà quelques années que cette exposition existe. Un petit point de quand cela date, le point historique sur ces chemins.
Eh bien, l'origine du chemin des crèches, en fait, elle est rémoise, puisqu'il existait une organisation locale qui touchait toute la Marne, qui était animée par Monsieur Lavrador. Monsieur Lavrador a ensuite déménagé, il s'est installé à Neuflize. Il est à la tête d'une association qui s'appelle Cap Tisanard, et il est lui-même détenteur d'environ 600 crèches. Le principe est qu'il prête une vingtaine de crèches à chacune des communes qui organisent une exposition au moment de Noël. Et c'est à partir de ces 20 crèches qu'on va pouvoir additionner les crèches des églises, les crèches des particuliers, de façon à montrer le maximum de crèches de tout pays, c'est ça l'intérêt, dans les lieux d'exposition. 2014, c'est la première exposition dans les comités de communes des Crêtes pré-Ardennaises. En 2015, il y a eu deux communes de plus dans le Pays Rethelois, qui sont Thésy et Bannogne-Recouvrance. Et encore une fois, cette année, la grande nouveauté. ajouter, c'est que l'Argonne ardennaise s'est adjointe au projet. Nous avons donc 23 expositions qui vont pour les Ardennes à l'ouest de Vaux-les-Rubigny jusqu'à Châtel-Chéry à l'est, qui couvre un territoire tout à fait considérable. Ces expositions ne concernent pas que les crèches, et bien sûr le cœur du sujet naturellement, mais on y adjoint également des expositions sur l'histoire locale, sur l'église elle-même, que les gens connaissent en général assez peu. On y ajoute aussi toute forme de manifestation intérieure ou extérieure à l'église pour faire de ces événements quelque chose qui attire la population. Il y a un double intérêt aussi, c'est que sur place, ce sont des équipes qui se constituent pour organiser les opérations, se coordonner et pour tenir les permanences, puisque les crèches sont ouvertes deux week-ends consécutifs, le samedi et le dimanche, en général de 14h à 18h, il y a quelques petites variations locales, donc ça fait quand même 16 heures pendant lesquelles il faut tenir les permanences, offrir le café, l'orange, etc., puisque la tradition veut qu'on offre quelque chose aux personnes qui viennent nous visiter. À ces animations, on peut ajouter des expositions, soit des vêtements sacerdotaux, on expose ici des abécédaires, là des objets anciens de toute nature, ou ailleurs des dentelles, etc., de façon à ce que l'intérêt ne soit pas que les crèches attirent les gens, mais on voudrait surtout leur montrer d'autres aspects. On ajoute souvent un petit quiz pour les enfants, de façon à ceux qui viennent avec leurs parents puissent aller trouver quel est le nombre de sujets provenant de telle ou telle crèche pour répondre à des petites questions diverses, de façon à soutenir leur intérêt.
Ces crèches, donc, on le précise, parce qu'on en parlait de deux week-ends, le 7, 8 et 14, 15 décembre prochain, pour les deux week-ends, donc ça permet d'espacer aussi bon nombre de ces expositions et de tout ce qu'on peut voir et ce qu'on pourra participer dans les différents villages. On a évidemment compris que la base, c'était les crèches, ce qui permettait d'attirer les gens dans les différentes églises des villages concernés, mais il y a plein d'autres choses après pour aiguiller peut-être un petit peu aussi la curiosité. C'est cet aspect-là qui est important, j'imagine, de ne pas être qu'une visite ou une découverte de crèches, mais amener un vrai esprit culturel.
Si vous voulez que je prenne un exemple, ce sera celui de Le Tour qui organise cette année pour la deuxième fois une étape du chemin des crèches. Eh bien, à Le Tour, il y aura naturellement des expositions de crèches. Nous avons bénéficiant sur place d'un spécialiste, Stéphane de Marville, grand collectionneur de crèches et qui adore s'occuper de ces expositions. Il organise lui-même chez lui des expositions. Il décore sa maison. Enfin, elle est en face de l'église, donc ça tombe très bien. Donc, l'aspect crèche, je n'ai aucun souci. À Le Tour, ce sera vraiment réussi. Mais on va y ajouter une petite exposition de photos sur l'histoire locale, en particulier sur la période qui a suivi la Première Guerre mondiale. Le Tour fait partie de ces villages sur la Hundingstellung, l'organisation de la fortification allemande qui ont été détruits en octobre-novembre 1918. Il y a eu une étape de reconstruction intéressante parce que, en fait, c'est un seul architecte, Hippolyte Thomasson, qui a organisé cette reconstruction avec un choix architectural qui caractérise bien la commune de Le Tour, notamment l'ensemble mairie, école, église. On va présenter quelques photos de cette période. Et puis, il y aura une question aussi sur le fameux chronogramme de l'église de Le Tour. Je laisse les visiteurs deviner ce que c'est que le chronogramme de l'église de Le Tour, qu'ils viennent et ils comprendront.
Pas dévoiler les secrets. On laisse libre choix aux gens de venir pour vous rendre visite et découvrir un petit peu tout ça. On parlait donc du coup de cet aspect culturel. On sent l'aspect découverte, apprentissage pour les plus jeunes via différents aspects comme les quiz, on en avait parlé. Mais c'est des visites qui concernent vraiment toute la famille. C'est important aussi de le préciser.
Nous voulons absolument accueillir les familles. Je reviens sur le cas de Le Tour. Il y aura chacun des deux samedis, le 7 et le 14, des contes. À 16h, une conteuse viendra raconter des contes de Noël. Et naturellement, c'est tout public. Et je pense que les enfants prendront beaucoup de plaisir à écouter les deux conteuses. En dehors du quiz, qui sera récompensé naturellement par des bonbons et qu'il sera sûr, ça sera comme chez Jacques Martin, tout le monde aura quelques bonbons. On va aussi exposer à Le Tour, parce que j'y tiens beaucoup, je suis voisin de Le Tour, donc j'en parle. On va aussi exposer des abécédaires, des dentelles, enfin tous objets anciens qui peuvent se rattacher à la pratique religieuse de l'époque.
Il y a plein d'autres choses aussi, des chants, des chorales, et même je regarde notamment chez nos amis de Machaut, des ateliers manuels de construction, c'est-à-dire que les gens ne sont pas seulement là pour une simple, entre guillemets, visite, ils pourront même participer concrètement aux ateliers et à l'événement en lui-même.
Oui, absolument, j'insiste sur ce point, c'est pas l'église elle-même qui organise les crèches, même si des paroissiens y participent activement, mais c'est une animation communale. Il peut parfaitement y avoir dans différents endroits des expositions dans des lieux qui ne sont pas des lieux consacrés, salle des fêtes, etc., etc. Il y a même une année, on organisait des tours à d'autres poneys, etc. qui sont des animations pour les enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui intéresse tout le monde, toute la famille.
Et qui permet d'unir, parce qu'il y a évidemment les gens qui font venir dans les différents villages participer à l'événement, mais on peut participer aussi de manière un petit peu indirecte. Il y a les particuliers qui peuvent prêter des crèches aussi aux communes, etc. On peut même aussi peut-être participer à l'organisation dans les différentes équipes. Ça veut dire que au-delà de tout ça, il y a des liens qui se créent et il y a un aspect social qui est important.
Absolument. Il faut effectivement insister sur ce point. C'est l'occasion pour une petite équipe de se constituer. Quelquefois, le noyau, c'est quelques paroissiens, mais ça peut parfaitement être d'autres personnes qui tiennent à faire rejaillir un petit peu tout ce qui est intéressant dans leur petit village. Vous faites allusion aux prêts par des familles, des crèches familiales. Tout le monde a des crèches chez soi, même plusieurs quelquefois. Les dates ont été retenues pour que la dernière journée soit donc le 15 décembre, ce qui permet à chaque famille qui aurait prêté des crèches de les récupérer pour les installer chez elle à l'occasion des fêtes de Noël. Donc c'est un point important aussi.
On est avec Jean-Luc Guillaume pour parler du chemin des crèches 2024 qui auront lieu, on le rappelle, les week-ends 17, 8, 14, 15 décembre. Donc ça va arriver rapidement, mais ça peut faire des visites tout au long de ces deux week-ends avec pas mal donc d'activités. Parler de cette nouveauté cette année, donc cette augmentation du nombre de villages grâce aux communautés de communes, ça permet peut-être aussi un petit peu de les mettre en avant parce que j'imagine que financièrement, sans ça, ça serait compliqué de pouvoir mettre tout ça en place.
Oui, en effet, les trois communautés de communes participent, sauf peut-être une cette année, participent au financement des flyers qui sont distribués à la population, des affiches éventuellement, mais il y a aussi une forte implication des bénévoles. Je signale, je ne sais pas si c'est évident, mais que tout cela est naturellement entièrement gratuit et que même le prêt des 20 crèches par commune est tout à fait gratuit. La seule charge qui nous incombe quand on organise quelque chose, c'est d'aller les chercher et de les ramener. Ça ne va pas plus loin. C'est du bénévolat complet, absolument.
Et la communication, donc parce qu'il faut mettre en place aussi tout ça via les flyers et autre chose également. On vous donnera, parce qu'il y a des sites, hein, parler depuis une vingtaine de villages, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir faire le programme ligne par ligne de toutes les expositions, mais on vous donnera ça dans quelques instants. Ce développement, ça veut dire qu'on sent année après année que ça fonctionne, et même sur le terrain, est-ce qu'il y a des remontées intéressantes, que les gens sont concernés et viennent au rendez-vous année après année, ça participe et il y a un engouement qui se crée.
Oui, dans les 23 communes qui participent cette année au chemin des crèches, il y en a quelques-unes, je pense à Thésie en particulier dans le Pays Rothellois, qui sont présentes chaque année. D'autres ailleurs aussi, hein. Mais l'intérêt, c'est effectivement que ça tourne un petit peu. Donc on a à la fois un petit noyau de communes qui tous les ans présentent une exposition avec pas forcément, et même jamais les mêmes crèches, forcément, puisque les 20 qui sont prêtées, un registre est tenu, on ne présente jamais au même endroit 20 crèches identiques. Mais l'idée également, c'est que ça s'étende et que par le voisinage fasse en sorte que telle ou telle commune, qui un jour aura prêté les crèches de son église pour l'exposition dans la commune voisine, soit à son tour commune organisatrice. C'est ça l'idée. C'est que ça tourne.
Donc, je vous parlais de sites. On peut donner peut-être celui des crêtes préardennaises, www.crêtespréardennaisetourisme.com. Il y a également un autre site www.agenda.crêtespréardennaise.fr. Mais on peut aussi peut-être inciter les gens, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de villages concernés, c'est d'aller peut-être aussi directement au cœur de ces villages, voir les églises, voir peut-être les mairies, pour avoir plus d'informations sur le déroulé, le programme et ce qui peut être fait.
On va déjà distribuer des flyers. Alors, toutes les communautés de communes participantes ne procèdent pas de la même façon. Certaines font une distribution dans chacune des boîtes à lettres du flyer. Dans d'autres communautés de communes, ce sont les bénévoles qui vont s'occuper eux-mêmes d'aller dans différentes communes porter les flyers dans les boîtes à lettres. Donc, ça n'est pas systématique. On va mettre également en place des affiches. J'espère qu'il y en aura au moins une par village qui donc inciteront la population à venir visiter le chemin des crèches dans les communes voisines, voire dans plusieurs communes. Et aussi un aspect qu'il faut peut-être souligner, c'est que quand on arrive à s'entendre avec des organisations comme une résidence pour personnes âgées, on peut imaginer de proposer à ces personnes de visiter quelques-unes des communes de façon à ce qu'elles puissent elles-mêmes en quelque sorte profiter de ce qu'elles ne pourraient pas faire individuellement en allant voir pas forcément toutes naturellement, mais au moins 3 ou 4 expositions. C'est quelque chose qu'on peut envisager, qui s'est déjà réalisé.
On précise également, puisqu'on parle de ça, que bon nombre également de villages ont un accès pour les personnes à mobilité réduite. C'est important aussi de le préciser.
C'est signalé sur le flyer, c'est une des premières questions qui est posée lorsqu'on a à remplir un questionnaire. Toutes les communes malheureusement n'ont pas un accès PMR. Je rappelle qu'un accès PMR, c'est un accès pour les personnes en fauteuil roulant, essentiellement. C'est un point important. Malheureusement, effectivement, ça exclut de la visite les personnes en fauteuil roulant. pour certaines des expositions.
Vous aurez encore une fois plus d'informations en allant tout simplement directement auprès de vos églises de manière précise. Merci Jean-Luc Guillaume d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce chemin des crèches qu'on vous souhaite plus organisé, le plus réussi possible.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté.
Rendez-vous la semaine prochaine, c'est la fin de cette émission que vous pourrez retrouver évidemment quand vous voulez. Hein. Ça, c'est une particularité grâce au site internet de RCF et à l'application mobile dans la rubrique podcast. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans le Rotellois. Au revoir.
L'écho du Rotellois, présenté par CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.
Écho du Rotellois avec Maxime Bettemal et signalons que la semaine prochaine dans l'émission Vous y êtes, on parlera également du chemin des crèches, mais cette fois-ci dans la région de Vous y êtes, lundi à 19h30, rediffusé mardi à 12h15. Voici Thierry Livoire, Presto Livre sur RCF Reims-Ardennes. Très belle soirée.
Bonjour, bienvenue dans Presto Livre où il sera question cette semaine de deux romans sur les liens familiaux. Le premier que je souhaite vous présenter s'intitule « Tout ce qui brûle ». Il paraît aux éditions Joël Losfeld et est signé Lisa Harding. Lisa Harding est une dramaturge et actrice irlandaise. Son premier roman « Abattage », salué par la critique, mettait en lumière les très jeunes filles victimes de la prostitution forcée en Irlande. Avec ce deuxième roman, elle continue d'explorer le thème de l'innocence de l'enfance abîmée par le monde des adultes. Voici l'histoire. Sonia est une jeune mère célibataire, ancienne comédienne en mal de paillettes, aux besoins irrépressibles d'amour et de reconnaissance. Elle aime plus que tout son fils de 4 ans, Tommy, et avec leur chien Herbie, ils forment un trio indéfectible. Dans la banlieue dublinoise, la famille vit en vase clos au rythme des excès de Sonia. Excès de vitesse, excès d'amour, excès d'alcool, car Sonia boit, parfois au point de mettre la vie de son fils en danger. Un jour, son père fait un retour décisif dans sa vie et l'emmène dans un couvent réaménagé en centre de désintoxication, pendant que Tommy est placé par l'assistance sociale. Lisa Harding livre un roman au réalisme sans fard, tenant le juste équilibre entre humour et émotion. Porté par l'urgence, Tout ce qui brûle fait avant tout le portrait d'une relation fusionnelle qui unit une mère à son fils. Le second roman sur lequel je souhaite attirer votre attention s'intitule « La fin des abeilles ». Il paraît aux éditions Gallimard et est signé Caroline Lamarche. Née à Liège, Caroline Lamarche a passé son enfance et sa jeunesse en Espagne, puis en région parisienne. Après des études en Belgique, elle part en Afrique, où elle enseigne le français et l'anglais, avant de revenir en Belgique. Elle a récemment publié aux éditions Gallimard « La mémoire de l'air » et « Nous sommes à la lisière, prix Goncourt de la nouvelle en 2019. Une nuit, la narratrice rêve que sa mère, handicapée et malvoyante, parcourt à pied dans l'obscurité les 100 kilomètres qui les séparent. Ce rêve inaugure un temps durant lequel, dans la grande et brave maison où la mère voudrait mourir parmi les siens, se renoue un lien ambivalent mais tenace. 5 ans plus tard, la presque centenaire assumera avec courage la nécessité de son placement dans un établissement de soins. Cet exil se doublera du confinement imposé par la pandémie, la voix de la mère au téléphone constituant l'unique vecteur de sa révolte. La mort l'emporte sans qu'elle ait pu revoir ses enfants, mais ce qu'elle a voulu faire de sa fin offrira une lumineuse consolation au désarroi familial. Avec l'intensité et l'humour qui lui sont familiers, Caroline Lamarche rend hommage au dernier combat d'une très longue vie. Je vous rappelle les références des ouvrages présentés aujourd'hui. « Tout ce qui brûle » par Lisa Harding aux éditions Joël Losfeld et « La fin des abeilles » par Caroline Lamarche aux éditions Gallimard. Bonne lecture.
Vous écoutez RCF Reims-Ardennes à Reims sur le 87.9 et à Charleville-Mézières sur le 94.6.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Léguer à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours.
Pour préparer Noël sous le signe de la fraternité, RCF vous propose son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Tout au long de la journée sur l'antenne de RCF, découvrez ces témoignages d'expériences personnelles de fraternité ou écoutez-les quand vous le souhaitez sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcast.
Et à 19h46 sur RCF Reims-Ardennes, on retrouve l'émission des étudiants de l'ICP Campus de Reims. L'émission s'appelle Bulles étudiantes. C'est Ambre Launois qui anime cette émission ce soir.
Bonjour, c'est Mac Lesguy. J'ai décidé de m'associer à une publicité pour les audioprothésistes entendre, car la perte d'audition est un handicap qui touche des millions d'entre nous. J'ai interviewé les audioprothésistes entendre. Ce sont des experts de la santé auditive. À l'écoute de leurs patients, ils sont attentionnés et ils leur conseillent la solution auditive la plus adaptée.
Entendre, vous relier à tout ce qui vous entoure. Dispositif médical, consultez un spécialiste. Contactez-nous au 0800 12 12 56, service et appel gratuit, ou sur entendre.com.
Bulles étudiantes vous est présentée en partenariat avec les audioprothésistes Entendre à Charleville-Mézières, Sedan et Besançon.
Bonjour à tous et bienvenue sur Bulles étudiantes. Je suis Ambre et cette semaine, Jawara, Manon, Téclite et Luce sont à mes côtés pour parler de sport. Lorsqu'on est étudiant, intégrer une activité physique dans son emploi du temps peut sembler difficile. Donc pour commencer, j'aimerais savoir si vous, de votre côté, vous arrivez à pratiquer une activité sportive en parallèle de vos études. Manon ?
Moi, je pratique pas de sport en club. Il m'arrive d'en pratiquer indépendamment, toute seule, de mon côté. Après, c'est plus compliqué, justement, d'être assidu dans mes séances, parce qu'avec les cours, quoi que ce soit, un imprévu est vite arrivé, donc c'est un peu plus compliqué. Mais j'essaye toujours de faire un peu de sport.
Et toi, Luce ?
Oui, j'ai la chance de pouvoir en pratiquer en club. Du coup, j'en fais deux fois par semaine, le soir après les cours. Je peux être à l'heure, etc., mais il y aura sûrement des moments où ça va être compliqué à cause des cours.
C'est quoi comme sport ?
C'est de la natation artistique.
Et toi, Téclite ?
Moi aussi, comme Manon, je pratique du sport seul. Donc ça permet de plus gérer son temps et donc d'être plus flexible.
Et Jawara ?
Moi, je pratique la danse depuis 2 ans et donc je pratique 2 heures par semaine parce que j'ai pas le temps de faire plus avec les cours.
Et en quoi le sport, il vous aide-t-il dans vos études ? Est-ce que ça a un impact sur votre concentration ou sur la gestion de votre stress ? Manon.
Moi, je pense que oui, mine de rien, ça a un gros impact. Ça nous permet de un peu nous évader et de mettre de côté les cours et le stress lié à ça. Donc pour moi, vraiment, je trouve ça important, ça me permet d'évacuer. C'est pour ça que je recommande vraiment de faire du sport.
Comme Manon, je pense que c'est important pour évacuer la pression qu'on a tout au long de la journée. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, ça nous permet de nous détendre un peu et de sortir du monde des cours. Moi, je sais que ça m'aide également pour le stress, notamment avec les compétitions. Ça permet de gérer un peu plus ses émotions dans une situation où on n'est pas trop à l'aise.
Téclite ?
Je pense aussi que le sport peut nous aider dans nos études, surtout les sports d'équipe, parce qu'on apprend à travailler à plusieurs et donc on peut le mettre à profit dans le cadre scolaire.
Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que le sport, ça aide à se changer les idées et ça aide, en fait, ça relâche la pression mentale.
Et en tant qu'étudiante, est-ce que vous devez renoncer à une activité sportive en raison de son coût ? Et est-ce que vous pensez que l'ICP, elle offre assez d'activités ?
Moi, je pense que c'est toujours un coût important. C'est pour ça aussi qu'il y a enfin de plus en plus de monde qui n'en pratique pas forcément en club. Mais c'est vrai qu'avec les associations que l'ICP propose, comme l'AS, l'association sportive, il y a pas mal de sports. Et la licence, elle est beaucoup plus abordable qu'un sport qu'on pourrait faire en club. Donc je trouve qu'il y a plus d'opportunités de faire du sport pour un budget plus flexible.
Je suis d'accord que ça demande quand même un budget de pratiquer en club surtout. Donc l'alternative de pratiquer seul, c'est bien. Je trouve que l'association de l'ICP, ce qui est bien, c'est que chacun peut proposer d'ouvrir un nouveau sport s'il n'est pas encore proposé. Et ça offre une plus grande diversité et je trouve que c'est très bien de proposer ça.
Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Et oui, s'entraîner seul, ça permet de réduire les coûts. Et puis faire du sport, on n'est pas obligé de payer. On peut très bien faire du jogging ou autre. Mais c'est bien qu'il y ait l'alternative des associations étudiantes pour nous aider à pratiquer le sport qu'on aime.
Pour ma part, c'est surtout le manque de temps qui m'empêche de plus pratiquer. Mais après, c'est vrai qu'avec les coûts de la vie étudiante, le coût des études tout simplement, ça peut être compliqué de financer une activité sportive à côté. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait une association sportive qui propose une diversité quand même d'activités différentes.
Selon vous, le sport est-il un bon moyen de se faire des amis à la fac ?
Moi, je pense que oui. Le sport, c'est vraiment une bonne manière de rencontrer déjà pas mal de monde. Ça a l'occasion de côtoyer des gens qu'on n'aurait pas forcément côtoyés par nous-mêmes. Enfin, on n'aurait pas forcément eu la chance d'aller vers eux. Donc, ouais, je pense que ça nous rapproche et ça permet vraiment de créer des amitiés.
Luce, je suis d'accord avec ce que Manon vient de dire. Ça nous fait créer des liens avec des personnes qui partagent le même point commun que nous, mais qui sont différentes de nous sur tous les autres points que le sport. Donc ça permet de rapprocher des personnes assez facilement, oui.
Je suis d'accord, et aussi lors des compétitions, dans l'adversité, ça permet de renforcer les liens entre les membres d'une équipe.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ça permet de créer du lien et c'est une très bonne chose pour s'intégrer.
Et avec l'arrivée des partiels, est-ce que vous avez des petites astuces en dehors du sport pour gérer le stress, relâcher la pression et prendre des vraies pauses entre vos révisions ? Manon ?
Moi, comme tu me l'as dit, c'est pas toujours simple de jongler avec révision des partiels et se faire plaisir à côté, quoi que ce soit. Je recommande de profiter de sa famille, de voir ses amis, de vraiment sortir s'aérer, mettre de côté un petit peu les révisions, histoire de quelques heures, hein, ça fait toujours du bien, pour après pouvoir mieux réviser.
Pareil, je trouve que c'est bien de pas s'enfermer dans une bulle où on se dit qu'on doit que réviser tout le temps. C'est bien de sortir, de faire des activités à côté, de voir ses amis, sa famille, pour relâcher un peu la pression et sortir du monde des cours pour permettre de mieux réviser après.
Teclit. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il est important de faire un vrai planning pour s'octroyer le temps de sortir, de s'aérer et de faire des choses qu'on aime pour mieux se replonger dans les révisions après.
Je suis aussi d'accord avec ce qui a été dit. En fait, s'organiser, ça nous permet de prendre du temps bien précis et bien défini pour pouvoir profiter de sa famille, de ses amis pour se reposer, se changer les idées, notamment avec des promenades ou aussi les activités manuelles qui aident beaucoup à se détendre.
Alors pour conclure cette émission, je vous propose de jouer au jeu du « tu préfères ». Donc Manon, tu préfères la natation ou la course ?
Je dirais la course. C'est plus simple à pratiquer.
T'en as déjà fait ou pas de la natation ?
J'en ai déjà fait, mais c'est surtout par moi-même, enfin pas forcément en club, quoi que ce soit. C'est aussi sympa, mais ça demande plus d'équipement que la course.
Et la course, t'en fais ?
Oui, justement, ouais, c'est surtout ça que je fais indépendamment. Après, le rythme, il est pas très assidu en ce moment, mais j'en fais plus, c'est plus facile à faire.
Ok. Luce, pour te détendre, tu es plus team « je regarde une série » ou team faire du sport?
Plutôt faire du sport, j'ai toujours aimé faire quelque chose. Je préfère vraiment aller faire quelque chose qui me plaît, qui me sert vraiment, que ce soit pour mes émotions, pour ma fatigue, etc., que juste de rester chez moi, assise. C'est moins productif pour moi.
Donc la natation, ça t'aide pas mal pour le stress?
Oui, beaucoup.
Ok. Et Teclit, tu préfères faire du sport avant les cours ou après les cours ?
Moi, je préfère après les cours. Comme ça permet de rentrer, de se doucher rapidement et pas de partir en cours après avoir fait une grosse séance.
Et enfin, Jawara, tu préfères faire du sport toute seule ou avec quelqu'un ?
Je préfère faire du sport avec quelqu'un parce que je trouve ça plus motivant. Ça rajoute un petit peu de l'énergie dans la pratique et surtout de la régularité s'il faut être assidu. Donc avec quelqu'un, c'est plus amusant.
D'accord, c'est tout pour cette émission sur le sport et la vie étudiante. Un grand merci à Jawara, Manon, Teclit et Luce d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bulles étudiantes. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bonjour, c'est Mac Lesguy. J'ai décidé de m'associer à une publicité pour les audioprothésistes Entendre, car la perte d'audition est un handicap qui touche des millions d'entre nous. J'ai interviewé les audioprothésistes Entendre. Ce sont des experts de la santé auditive. À l'écoute de leurs patients, ils sont attentionnés et ils leur conseillent la solution auditive la plus adaptée.
Entendre, vous reliez à tout ce qui vous entoure. Dispositif médical, consultez un spécialiste. Contactez-nous au 0800 12 12 56, service et appel gratuit, ou sur entendre.com.
Bulles étudiantes vous a été présentée en partenariat avec les audioprothésistes Entendre à Charleville-Mézières, Sedan et Besançon.
Une émission animée ce soir par Ambre Launois, c'était Bulles étudiantes sur RCF Reims-Ardennes à 20h, écran étoile. Et le retour de la rédaction demain, 7h, 8h et 9h, c'est le maire de Charbonne dans les Ardennes, bien entendu, qui sera l'invité de Jean-Pierre Benoît. Très belle soirée.
Once in your life, you find her, someone who turns